affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Au cours de cette émission, je vais plus encore qu'à l'accoutumée veiller à parler un français correct, tenter de ne pas commettre de fautes d'accord, essayer de bannir les anglicismes, les barbarismes, les néologismes infondés, et surtout réprimer les belgicismes qui me viennent par atavisme beaucoup plus naturellement. Je vais faire tout cela par respect pour vous, chers auditeurs, plus encore par respect pour la langue française, mais surtout car nous avons dans notre studio ici deux gardiens de la langue française, en la personne d'Yves de Pouliquen. Monsieur le professeur, bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française et de la Commission du dictionnaire. Et j'ai à ma gauche monsieur Patrick Vanier, agrégé de grammaire et membre, lui, du service du dictionnaire de l'Académie française. Nous verrons tout à l'heure que ce sont deux services qui travaillent bien sûr en bonne intelligence. Ma première question, messieurs, c'est: est-ce que vous comprenez mon émoi, mon trouble et ma crainte de ne pas pratiquer un français correct en votre présence? Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est intimidant?
Non, parce que je pense que vous avez pris vos précautions, que vous avez préparé votre texte et que vous ne ferez pas d'erreur, et j'espère que nous n'en ferons pas non plus. Mais enfin, il faut dire que c'est si commun maintenant dans les émissions radiophoniques ou télévisuelles qu'on s'étonne qu'un beau parler soit de rigueur. Eh bien, il l'est, et nous allons essayer de nous y tenir.
Et oui, car j'ai oublié de préciser que nous vous recevons pour la publication du troisième volume de Dire, ne pas dire, du bon usage de la langue française, et que le principe même de ces volumes est de donner la réponse des académiciens, du service et de la commission du dictionnaire sur les usages impropres de la langue qui lui sont signalés, qui lui sont signés par les Français. Et vous le dites vous-même, la plupart de ces exemples sont issus des médias.
Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une tâche comme c'est donné. D'ailleurs, je dirais, elle est assez ludique. C'est qu'on note au fil des auditions qu'on a les emplois fautifs, les contresens, franchement des erreurs de grammaire, et que au cours de notre séance du jeudi matin, nous les relevons, nous les consignons, et à ce moment-là, je les présente à mon voisin et ami Patrick Vanier, pour qu'on en tirions vraiment une substance intéressante qui ne cherche pas à réformer, à imposer, avec une fonction professorale, mais à restituer à ce qui est la normale ce qui doit l'être.
Non, il faut utiliser les mots justes et les définir. J'ai dit que vous étiez membre de la commission du dictionnaire, et vous, monsieur, c'est du service du dictionnaire. Pouvez-vous nous expliquer que recouvrent ces deux termes qui désignent forcément des services différents, et comment travaillent-ils ensemble?
Je vais vous dire, vous laisser expliquer ce qu'est le service du dictionnaire.
Le service du dictionnaire, c'est un service qui est composé de professeurs agrégés de l'éducation nationale et qui sont détachés au service de l'Institut de France et plus particulièrement de l'Académie française pour accomplir un certain nombre de tâches préparatoires que les académiciens, vu leur emploi du temps, vu leurs occupations, ne pourraient pas faire. Donc on fait ce travail préparatoire et ensuite on le soumet aux académiciens qui le valident, qui l'amendent ou qui éventuellement nous demandent de le reprendre.
Oui, on nous présente le dictionnaire en l'ayant décomposé en un nombre impressionnant de cahiers. Ces cahiers sont préparés d'une façon extrêmement précise, avec, je dirais, la définition, l'étymologie, la définition du mot, et aussi un certain nombre d'exemples qui doivent illustrer l'introduction de la grammaire dans la langue. C'est donc un travail extrêmement laborieux, je pense que...
Titanesque.
Oui, titanesque. Et chaque mot est présenté avec une rigueur déjà excellente. Et on nous propose les cahiers à la commission du dictionnaire, et c'est qu'on présente de deux membres du service du dictionnaire. Et nous discutons mot après mot et nous donnons notre avis. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les 7 ou 8 personnes qui constituent la commission du dictionnaire ont pour chaque mot une couleur qui n'est pas tout à fait la même. Et il y a entre l'Est et l'Ouest, le Nord, le Sud, la Belgique, vous m'avez dit, par exemple, il y a des nuances sur les mots, sur la totalité des sens, des variations, comme des formes cliniques du mot, si je fais une allusion médicale, qui nous permet de donner presque tous les sens que le mot a. Et nous essayons de le formuler de la meilleure façon possible. Et nous choisissons aussi les exemples qui nous sont proposés. C'est un très gros travail. Le travail du dictionnaire est un énorme travail. Le nôtre est un travail très patient, avec beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Et même lorsqu'on n'est pas d'accord, on vote pour qu'il y ait une majorité qui s'impose. Et on remet à ce moment-là notre cahier avec les corrections qui repasse au dictionnaire pour une formulation donc corrigée, première correction qui va nous être soumise.
Voilà, oui, c'est exactement ça. Il y a une navette comme entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a une navette entre la commission du dictionnaire et le service du dictionnaire.
Oui, c'est comme si vous prépariez un projet de loi, qu'ensuite il arrive devant les élus qui tranchent.
Voilà. Alors ce cahier corrigé nous est représenté à la commission du dictionnaire, avec une sorte d'imprimatur, et qui aura tout de même, qui nécessitera l'avis tout de même de la commission plénière, de l'assemblée plénière, voilà. Et à ce moment-là, le cahier est remis à l'éditeur.
Très bien. Alors pour bien comprendre ce travail, on pense immédiatement à l'introduction de nouveaux mots dans le dictionnaire, mais ça ne se limite pas à cela. Vous retravaillez également les définitions et l'inflexion du sens des mots.
Bien sûr, c'est la grande différence avec les autres dictionnaires. C'est que les autres dictionnaires retirent quelques mots, en ajoutent quelques centaines au maximum. Nous, tous les mots du dictionnaire sont revus les uns après les autres. Et on en ajoute combien par an ?
Alors, par an, c'est difficile à estimer, mais la 8e édition du dictionnaire de l'Académie française comptait 32 000 mots. Et on en est déjà à plus de 40 1000 pour la 9e édition, qui évidemment n'est pas terminée, qui n'en est qu'à la lettre R. Enfin, ce qui est publié, c'est à la lettre R. Il y a déjà plus de 40 000 mots. On estime qu'il y aura entre 55 000 et 60 000 mots dans cette 9e édition. C'est-à-dire qu'entre la 8e édition et la 9e édition, on augmentera de plus de 20 000, alors que la première édition du dictionnaire de l'Académie française avait 18 000 mots. C'est-à-dire qu'entre la première et entre la première et la 8e, on a eu 14 000 mots supplémentaires. On en aura pratiquement deux fois plus, rien que pour une édition nouvelle.
Donc la précédente édition datait de
1935.
Alors, comment expliquer cette inflation ?
Par la technologie, essentiellement. La commission interministérielle qui a des rapports avec toutes les disciplines politiques et techniques françaises nous apporte régulièrement tous les mois un certain nombre de mots nouveaux que nous sommes chargés d'admettre dans une correction aussi, en corrigeant aussi la définition qui nous est proposée par les commissions interministérielles et que nous améliorons pour qu'elle soit conforme, si vous voulez, à un bon parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir 55 000 mots. Quand on compare cela avec le dictionnaire anglais, je dirais la collecte des mots anglais, s'il n'y a pas de dictionnaire, s'il n'y a pas d'académie anglaise, que quelques-uns voudraient bien avoir, les Anglais admettent des milliers et des milliers de mots. C'est-à-dire que c'est une mondialisation de la langue, mais qui ne l'améliore pas. Nous veillons vraiment à ce que tous les mots que nous introduisons aient vraiment une utilité, mais ne soient pas, un langage...
Un reflet de l'air du temps, par exemple.
Oui, exactement. Et là, nous sommes moins pressés que d'autres dictionnaires privés, et je crois que nous avons une rigueur qui est tout de même, appréciée, et qui se situe dans un laps de temps de deux générations, car c'est la langue parlée que nous devons exprimer. Et on sait très bien que la langue d'aujourd'hui n'était pas tout à fait la même de celle qu'il y avait 100 ans et qui ne sera pas la même que celle qu'on parlera dans 100 ans. Donc on apprécie le mot qui peut durer, le mot qui peut se retirer, sauter du dictionnaire et aussi naturellement toute l'introduction des mots nouveaux.
Vous voulez dire que le temps pris pour analyser tous ces mots et le laps de temps entre chaque édition du dictionnaire est elle-même une méthode en soi pour faire le tri?
Ah, oui, absolument. Oui, exactement. Le temps importe. Et je pense que le temps... On peut reprocher à l'Académie de dire de ne publier un dictionnaire que là tous les demi-siècles. En réalité, la langue évolue aussi lentement. Et ce que nous faisons, l'application qu'on y met, je crois, est parfaitement justifiée, car je pense que le dictionnaire, quand il va être terminé, la 9e édition, est tout de même assez remarquable.
Alors, quels sont les... Vous devez bien avoir une sorte de cahier des charges, de critères utilisés pour sélectionner tel ou tel mot, quels sont-ils?
Alors ça, c'est Patrick qui va vous le dire.
Alors, les critères qui sont utilisés, il ne faut pas que ce soit des termes trop techniques. C'est-à-dire que notre dictionnaire n'est pas un dictionnaire de médecine, par exemple, n'est pas un dictionnaire de physique. Un dictionnaire ne peut pas viser pour l'exhaustivité pour un dictionnaire, c'est une chimère dans laquelle il se perdrait. Les zoologues estiment aujourd'hui qu'il y a à peu près 1 million d'espèces d'insectes. Évidemment, on ne va pas rentrer ce million d'espèces d'insectes, ce serait une forme de folie. Donc il faut que ce soit des termes d'usage courant.
Oui, c'est un dictionnaire, ce n'est pas une encyclopédie.
Voilà, ce n'est pas une encyclopédie, ce sont des termes d'usage courant. Alors, on tient compte, évidemment aussi, l'Académie française est composée d'écrivains, donc on tient compte aussi de la littérature, des grandes œuvres de la littérature. On essaie quand même... Enfin, on voudrait qu'avec le dictionnaire de l'Académie française, on n'ait pas de problème de compréhension pour lire les grands classiques. Même si on sait que dans certains cas, il y a des auteurs comme Victor Hugo, par exemple, qui sont qui ont une propension à créer de nombreux termes. Je ne suis pas sûr que tout Victor Hugo soit dans notre dictionnaire, mais l'essentiel est quand même là.
Donc l'idée, ce serait de conserver dans ce dictionnaire des termes qui seraient un peu tombés en désuétude dans le langage commun, mais qui seraient nécessaires pour accéder au trésor de la littérature.
Alors, il y a une mission conservatrice qui est indiscutable, mais il y a aussi on essaie aujourd'hui de rentrer un grand nombre de mots qu'on ne pensait peut-être pas faire rentrer dans les éditions précédentes. Dans la préface de la première édition du dictionnaire de l'Académie française, il était dit, par exemple, que les termes de science n'avaient pas à figurer dans ce dictionnaire parce que c'était un vocabulaire trop particulier. Mais il est exact... Enfin, on doit prendre en compte aujourd'hui le fait que il y a un certain nombre de vocabulaire, de termes scientifiques qui font partie du bagage de l'honnête homme. Et évidemment, ces termes, ceux qui ne sont pas trop spécialisés, mais qui sont quand même entrés dans une certaine langue courante, ces termes, on doit évidemment les définir. C'est d'ailleurs pour ça que, dans notre service, on a une professeure agrégée de sciences qui nous aide beaucoup, qui, elle, a également la perception de ce qui se dit dans le domaine des sciences, dans une langue courante des sciences, et qui nous aide évidemment beaucoup.
C'est-à-dire qu'à mesure que le vocabulaire, par exemple, scientifique ou médical, tout vocabulaire de métier colonise le langage courant, il est accepté dans le dictionnaire.
À partir de ce moment-là, on l'accepte, oui.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres critères?
Alors, il y a un certain nombre de critères. C'est-à-dire que, par exemple, on a de très honorables confrères qui ont fait entrer dans leur dictionnaire les mots meuf, keuf, ce type de mots, qui sont basés sur du...
Vous parlez des confrères du dictionnaire privé, alors,
Larousse
ou Petit Robert, pour parler
très bons ouvrages. Mais voilà, l'Académie française considère que si c'est du verlan, n'importe quel mot, voilà, c'est une pratique, n'importe quel mot peut être employé en verlan. Donc, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et puis, c'est aussi des mots qui, ce sont des mots à la mode. Qui
sont périssables.
Qui sont périssables. Et l'avantage de l'Académie française, c'est qu'elle s'inscrit dans une longue durée et que donc on essaie, c'est ce que disait Maurice Druon dans la préface du premier tome de la première édition, c'est-à-dire que les mots qui sont tombés de la dernière pluie et qui partiront avec la première sécheresse n'ont pas vocation à entrer dans le dictionnaire.
C'est joliment dit.
Mais par contre, nous n'omettons pas non plus d'introduire quelques mots d'argot lorsqu'ils sont extrêmement utilisés. Et on a des classifications qui sont familières, populaires, argotiques, qui permettent de dire que ces mots étant utilisés par beaucoup de personnes, il n'y a pas lieu de ne pas les introduire. Il faut qu'elles aient un sens, il faut qu'elles aient une explication.
Oui, il n'y a pas un regard de classe ou de caste porté sur les mots.
Non.
Mais il y a une volonté de pureté, d'exactitude et de
faire
en sorte que ces mots soient utilisables.
De correspondre au langage qui est pratiqué chez nous en ce moment, voilà. En tenant compte aussi, comme le disait Patrick, d'une capacité de lire aussi les classiques, car il ne faut pas supprimer des mots qu'exprimaient nos classiques, nos Saint-Simon et autres, et qui ne seraient pas dans le dictionnaire. Il faut bien qu'ils y soient. Donc on a là toujours une réflexion assez profonde de la part du service du dictionnaire, de la part de la commission du dictionnaire, sur vraiment le sens, l'importance du mot dans le dictionnaire.
Alors, la définition des mots, c'est une chose. Le sens des mots, c'en est une également. En découvrant les volumes Dire, ne pas dire, on voit que ça va bien au-delà d'un dictionnaire. Il y a aussi la façon dont on l'utilise, les expressions non conformes, la grammaire. C'est un travail qui est en dehors de vos commissions, qui est pris en compte comment ?
Ah.
Parce que tout se tient, bien sûr.
Oui, oui. Bien sûr. En fait, donc, dire ne pas dire, c'est, si je puis dire, l'enfant du professeur Pouliquen qui...
pas seulement moi.
Qui a décidé de donner un caractère plus visible aux travaux de l'Académie française et qui a voulu qu'on ne puisse pas dire, ou à tout le moins qu'on puisse moins dire, que l'Académie française ne faisait rien quand la langue était attaquée. On recevait énormément de courriers, on a beaucoup de correspondants qui nous écrivent pour se plaindre d'un certain délitement de l'état de la langue. Et l'Académie avait de temps en temps faisait passer des motions dans la presse, s'exprimer, mais il n'y avait pas c'était pas très visible. Et avec Dire, ne pas dire, on a maintenant un outil qui a séduit visiblement nos correspondants. On le voit par parce que nos correspondants nous écrivent, et puis on le voit aussi par le succès des différents volumes qui ont été publiés.
Oui, et par le succès de l'interface, puisque c'est un travail qui est collaboratif, comme on dirait aujourd'hui.
Oui. Non, c'est vrai que
vous répondez
Patrick a très bien résumé la situation. C'est que quand je suis entré à l'Académie, moi je n'aimais pas qu'on me dise, que mes amis me disent « mais que fait l'Académie alors qu'on parle si mal le français à la radio partout ?» Alors je dis « mais l'Académie travaille beaucoup, oh, ça ne se voit pas ». C'est vrai que ça n'est pas très visible. Alors bien sûr... Il y avait une idée, c'est d'exploiter le site qui existait et qui réunissait déjà beaucoup de correspondants qui écrivaient au service du dictionnaire, qui nous écrivaient et que le service du dictionnaire analysait avec une réponse qui était faite à tous les correspondants. Il y en avait déjà beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup. On reçoit entre 6 et 7 000 lettres tous les ans.
Mais écoutez, j'espère que votre service est fourni.
Écoutez, en personnel. Oui, non, mais il ne manque pas de travail. Et je ne suis pas sûr que dire de ne pas dire et arranger la situation.
Voilà. Oui, vous êtes très courageux de venir à la radio pour expliquer que vous pouvez faire ça, car j'ose espérer qu'après cette émission, vous recevrez encore plus de courriers.
C'est tout à fait possible. Et on a reçu des courriers de plus de 85 pays différents, ce qui montre quand même qu'il y a une attention à la langue. Qui n'est pas le fait uniquement des Français de France, qui est vraiment un souci partagé des francophones du monde entier, mais même aussi de personnes qui ne sont pas du tout des francophones natifs, qui simplement apprennent la langue et qui ont un attachement à cette langue et qui nous écrivent pour que nous les aidions. Dire ne pas dire, c'est pas une œuvre de censure. On veut surtout faire œuvre utile et aider nos correspondants.
Ça a été d'ailleurs la définition du départ. Au début, convaincre mes confrères Certains étaient tout à fait d'accord, d'autres étaient peut-être un peu hésitants, disant l'Académie est une institution fermée, solennelle, etc. On a ouvert une fenêtre, et la fenêtre existait puisque c'était la toile, et que la toile permettait déjà d'avoir un lien avec la population française et francophone qui était déjà très notable. Et on s'est dit que inscrire dire ne pas dire, c'est-à-dire un chapitre spécial, sans être censeur, bien entendu, on se refuse à imposer. On remarque, et autour des remarques, on essaie de dire ce serait peut-être mieux de faire d'où dire et ne pas dire. C'est un argument très simple. Et après 2 ans ou 3 ans de lien avec les internautes, on a commencé quand le livre, on a un éditeur, M. Philippe Rey, qui est venu nous voir et qui a dit, mais écoutez, pourquoi on ne pourrait pas prendre un certain nombre des exemples que vous citez dans une publication qui pourrait devenir annuelle. Donc on est parti sur ce modèle et il se révèle que ça marche très bien.
Très c'est bien. Un grand succès de
grand
librairie.
Succès, grand succès, grand succès. Et je pense que nous préparons le volume 4, n'est-ce pas, Patrick ?
Voilà,
alors, je dois dire que là, je remercie le service du dictionnaire. Et je suis heureux aussi que le service du dictionnaire apparaisse clairement dans les travaux qu'il fait. Parce que cela s'ajoute aux autres tâches. Et je dois dire que j'ai sûrement tendu à l'extrême vos emplois du temps. Et là, j'en suis désolé, mais je suis quand même heureux qu'on le fasse ensemble. Et je crois qu'on le fait avec bonheur, toujours avec enthousiasme. Et j'espère que ça pourra continuer.
Alors, effectivement, on a beaucoup, beaucoup de travail. Ça, c'est indiscutable. Mais voilà. À toutes les étapes de tout ce qui se fait au service du dictionnaire, mais c'est évidemment la même chose à la commission du dictionnaire, c'est du travail collectif. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas une personne qui fait telle ou telle chose. C'est-à-dire que si j'ai du temps qui est un peu dégagé pour faire dire ne pas dire, c'est parce que mes collègues s'occupent de charges qui normalement me seraient revenues. Donc voilà, c'est absolument une œuvre collective. C'est du travail, mais en même temps, c'est intéressant. C'est quand même une chance, me semble-t-il, de faire un métier où on apprend des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours, où on découvre des... Alors, comment dire, on est amené à... D'abord, c'est vraiment important, cette idée de faire œuvre utile, d'aider des gens qui sont dans ce que j'appellerais une forme d'insécurité linguistique, qui se demandent s'ils doivent dire telle ou telle chose. Donc, on essaie de leur proposer des réponses. En même temps, on essaie à chaque fois de leur signaler que c'est pas grave qu'ils se posent des questions, qu'il n'y a pas de questions idiotes, au contraire. Que
la preuve, vous débattez entre vous.
Voilà, la preuve, on débat entre nous, et que toutes les questions sont intéressantes et que c'est peut-être parfois à partir de questions qui semblaient tout à fait simples, tout à fait naïves, ça nous aide à approfondir notre connaissance de la langue française. Et une des choses qu'on doit faire aussi ici, c'est remercier tous ces gens qui nous écrivent parce que, ils nourrissent notre réflexion. Et puis, une chose importante que n'a pas encore précisé le professeur Pouliquen, c'est que quand ils ont créé « Dire, ne pas dire », pour ne pas avoir l'air d'être uniquement... pour ne pas trop donner une image de père fouettard, le professeur Pouliquen a voulu qu'il y ait une rubrique qui est importante dans « Dire ne pas dire » qui s'intitule « Bonheur et surprise de la langue française », où on voit qu'en naviguant entre les mots, que les mots sont liés entre eux, qu'il y a des rapports parfois étonnants, que les mystères ou les bienfaits de l'étymologie peuvent nous amener à rapprocher des mots auxquels on ne pensait, qu'on croyait complètement éloignés dans le temps, dans l'espace, dans la géographie. Et c'est vraiment une source de plaisir quand on découvre ces choses-là. Et c'est évidemment pour nous une source de plaisir d'essayer de les faire partager le plus possible à tous ceux qui voudront aller sur notre site ou éventuellement acheter les ouvrages.
Ouais. Et je dois dire que Patrick résume là, au fond, l'un des aspects de nos travaux, que ce soit au service du dictionnaire ou à la commission du dictionnaire, puisque nous sommes intimement liés, que nous avons un va-et-vient entre nos pensées, nos définitions, nos réflexions, c'est que c'est extrêmement intéressant. Patrick vient de dire qu'il a un plaisir à nous présenter les réflexions qu'il a autour de certains mots, de l'association des mots, de leur originalité, et que nous avons un bonheur à en commenter toute l'expression et aussi à définir les mots. Car à la commission du dictionnaire, je puis dire que les membres qui y appartiennent sont heureux de se retrouver tous les jeudis matins pour travailler pendant 3 heures solides à la définition des mots. Car c'est un moment d'intense, un jeu. C'est un jeu.
C'est à la fois solennel et ludique.
Ah oui, c'est à la fois, oui, solennel et ludique, et très ludique. Et car le nombre de réflexions que nous avons, d'échanges que nous avons, est très intéressant. Et puis on a tout de même des cultures différentes. L'Académie française qui théoriquement apparaît comme la réunion d'écrivains. Oui, il y a les vrais écrivains, les romanciers, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui écrivent, mais dans le cadre de leur fonction, de leur métier, et que donc les mots qu'ils ont utilisés, la manière de le faire est tout à fait singulière pour chacun. Donc, on confronte des esprits, des pensées, et c'est un jeu intellectuel extrêmement intéressant. Donc c'est un privilège d'être à la commission du dictionnaire. Et c'est un bonheur de travailler avec le service du dictionnaire.
En tout cas, je peux vous confirmer, pour les avoir lus bien évidemment pour préparer cette émission, que cet aspect ludique se retrouve parfaitement dans les 3 volumes dont nous parlons, de dire et ne pas dire, où au fil des pages, on apprend beaucoup de choses, on peut éventuellement constater qu'on utilisait de façon impropre tel ou tel mot, mais tant mieux, si on savait déjà tout, c'était pas la peine de le lire.
Nous aussi, nous apprenons à chaque fois à essayer de parler français.
Mais on s'y amuse beaucoup aussi, surtout que c'est rédigé d'une façon assez alerte et plaisante.
Oui, alors là, le service du dictionnaire importe beaucoup dans la rédaction aussi. Alors une rédaction, bien sûr, qui est soumise à la commission, mais qui est en fait très, très affinée, hein, très précise.
Alors on s'efforce effectivement de faire en sorte que nos lecteurs prendront du plaisir à lire... soit ce qui sera publié sur le site, soit ce qui sera publié dans les livres. Mais une fois encore, c'est une œuvre collective. C'est-à-dire qu'avant même que les travaux soient présentés à la commission du dictionnaire, ils ont été relus, amendés par plusieurs membres du service du dictionnaire. C'est vraiment, j'ai l'impression, moi, de leur livrer des gros cailloux un peu rugueux, et eux, les polissent, pour que, voilà, ça puisse être plus agréable, que ça ne heurte pas de quelque manière que ce soit.
Oui, le nombre de personnes intervenant dans la rédaction, finalement, est très grand, et passe par des filtres successifs. Des filtres qui retirent ou qui ajoutent. Et c'est un travail de même collectif très laborieux qui a un nombre d'étapes non négligeables. Ce qui veut dire que quand on donne le bon à tirer, on a quand même envisagé toutes les erreurs possibles, les contresens possibles, les rédactions.
On a essayé,
oui. On a fait de notre mieux, mais c'est vrai que c'est un travail qui est très laborieux.
Et une œuvre vivante. Vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait de répondre à une sorte de clameur populaire, s'exclamant « l'Académie française ne fait rien, oui. ne fait rien, oui. vraiment, oui. notre langue est attaquée, elle est délabrée. Oui. » Ça m'a mis dans une première réflexion, c'est extrêmement rassurant, non ? On se lamente sur ce délabrement, mais le simple fait qu'une clameur populaire s'empare de ce sujet, ça prouve l'attachement des Français et des francophones à leur langue. Ça va à l'encontre des visions un peu misérabilistes qu'on peut avoir.
Oui, non, mais d'ailleurs, moi, j'aime pas l'expression défendre la langue française. J'aime pas défendre. On défend pas la langue française. On essaie de la pratiquer très bien. Et quand elle est pratiquée très bien, elle est très belle. Et je pense qu'il y en a peu d'équivalentes dans la précision, comme propos d'échange avec l'autre. Définir un état d'âme ou un état d'esprit par la langue française, c'est quand même c'est une grâce folle.
Est-ce que je peux vous faire un aveu ?
Oui.
Dans la préface à l'édition du premier volume,
oui.
signé Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, justement, écrit ceci, qui m'a un peu choqué et surpris. L'Académie ne se préoccupe pas d'élégance, elle se soucie de précision et d'efficacité. Elle cherche à épargner aux Français et aux Françaises le destin cruel de Babel. Son but n'est pas de faire joli, ni même de s'accrocher à une conception formelle du correct. Son but est d'éviter qu'une confusion dans les mots n'entraîne une confusion dans les idées. Fort bien, mais est-ce que ne préoccupe pas un petit peu d'élégance aussi, quand même ?
Oui, oui, bien sûr, mais c'est une langue très élégante, oui. Alors, nous, c'est vrai que la mission c'est de, le bon usage. Alors, le bon usage peut plutôt évoquer l'emploi commun au travers d'une société très large du français. Mais il est bien évident que ce que l'on propose aux Français, c'est tout de même la capacité d'exprimer magnifiquement et très profondément des choses graves, profondes. Enfin, c'est là que l'élégance aussi, puis nos grands écrivains sont tout de même caractéristiques par l'élégance de leur style, je dirais, l'érudition qu'ils ont de la langue. Ça, c'est évident. Non, mais Jean d'Ormesson, je crois, exprimer là des choses plus proches de la recommandation qui est faite au dictionnaire de la langue française, c'est de répondre au large usage de la langue, mais au bon usage de la langue.
Et puis, un des intérêts de se pencher sur l'étymologie, c'est qu'on voit que le sens premier d'élégance, c'est la capacité à faire les bons choix. C'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que l'élégance, en matière de langage, c'est d'abord de donner le mot juste. Donc, les termes ne sont pas, au fond, ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que c'est en étant capable de trouver à chaque fois le mot juste, qu'on aura le deuxième sens d'élégance, c'est-à-dire un style qui plaît, quelque chose d'éventuellement un petit peu chatoyant dans la présentation du texte, dans ce qui est écrit. Mais l'élégance vestimentaire, elle consiste aussi à bien choisir ses vêtements, à voir ce qui va pouvoir être en harmonie. C'est la même chose pour les mots. L'élégance, ça consiste d'abord à trouver le mot juste pour définir celui qui conviendra mieux à ce qu'on veut définir.
En tout cas, c'est une politesse de choisir le mot juste, c'est certain.
Oui, oui. Oui. Et une difficulté.
Donc le vrai, le bien et le beau, finalement, comme on pouvait le dire en cours de
philosophie. Voilà, on est un petit peu platonicien, exactement.
Vous devez quand même être pris quand même dans des vents contraires. Hein. On l'a dit, je parlais de cette clameur populaire, ça signifie quand même aussi qu'il y a des débats autour de la langue. Tout le monde n'a pas la même position lorsqu'on vous propose telle ou telle réforme. Mais tiens, parlons de cette réforme de l'orthographe qui ne provient pas de l'Académie, mais d'autres services institutionnels. On sent quand même que ça tire un peu à U et à DIA. C'est une bonne expression, ça tire.
Oui, absolument, excellent. Oui, mais ça tire à U et à DIA, oui, dès l'instant où les gens veulent imposer des réformes drastiques de la langue française et de l'orthographe. Oui, c'est un débat profond. Il y a eu déjà des débats infiniment nombreux dans le passé avec des modifications de l'orthographique. Oui. C'est-à-dire que c'est difficile, quand on possède absolument la langue et l'orthographe actuelle, on n'a pas envie qu'on vous chatouille et qu'on vous dise « mais non, il faut écrire comme ça ou pas ». Mais quand on veut proposer aussi une simplification extrême de l'orthographe, ça rentre aussi dans l'élégance. Il y a des mots qui deviennent affreux quand ils ne sont plus écrits comme on le pense, et en plus on oublie leurs racines. Finalement, c'est se priver d'une étymologie, c'est se priver finalement de ces bonheurs et ces surprises que nous analysons avec nos amis du service du dictionnaire. C'est là où, c'est-à-dire toucher à ce qui est aussi achevé, c'est toujours un peu difficile. Alors, je pense que l'Académie n'est pas du tout opposée à des réformes qui soient sensées. Mais il y a quelquefois dans l'argumentation des modifications de l'orthographe d'autres propos qui sont...
Lesquels ?
Alors, ce qu'on peut constater aussi, c'est que...
Un sujet brûlant, visiblement.
En 1990, l'Académie avait proposer à ce que les propositions de rectification de l'orthographe soient soumises à l'usage du temps, à l'épreuve du temps. Et une fois de plus, l'Académie française se base sur l'usage. Pratiquement d'une édition à l'autre, il y a toujours eu des modifications orthographiques, des réformes qui étaient voulues par l'usage. Ce que l'on peut constater, c'est que l'immense majorité des francophones, des utilisateurs du français, ne se sont pas emparés de ces propositions de rectification. Ce que l'on constate, c'est qu'au bout de 25 ans, voilà, ces rectifications, la majorité des gens n'en avaient pas voulu. Donc, à ce moment-là, puisque ces rectifications qui étaient proposées n'avaient pas été prises en compte, les gens ne les avaient pas faites leurs. On n'avait pas de raison de les... Comment dire ? Il fallait mieux qu'elles soient, voilà, qu'elles soient abandonnées, puisque l'usage n'en avait pas voulu.
Ce qui démontre que la méthode choisie par l'Académie et qui n'est pas perçue par tout le monde, qui consiste précisément à prêter une attention à l'usage et à avoir un examen raisonné de cet usage... c'est pas l'image qu'on s'en fait, c'est ça que je veux dire. Oui. On a l'impression que l'Académie arrive comme un censeur, des gens non. qui, eux, connaissent l'usage exact et vont l'imposer, et puis c'est comme ça, un petit peu comme un professeur corrigeant des élèves. Oui. Et en fait, c'est le contraire. On voit que les réformes sont plutôt proposées par décret, et l'Académie prône la prudence et l'examen de ce qui était poli par le temps.
C'est très démocratique. Et d'ailleurs, quand on a imposé la féminisation des mots, par décret, ce qui était d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être discutable dans le sens, dans la façon de le faire, a été maintenu, vous me demandiez pourquoi, par un esprit féministe qui est né au Canada et qui a voulu que l'on féminise tous les noms écrivains, écrivaines, professeurs, professeureux, etc.,
Là, pour le coup, l'élégance aurait dû s'y opposer, parce qu'à l'oreille, c'était très beau. Hein.
Exactement. Et l'Académie, je crois, n'est pas opposée à ce qu'on change un certain nombre d'accords, de sens, hein, de passer, de rendre une écriture différente pour l'évocation féminine et l'évocation masculine, mais à condition que ce soit élégant. Or, il y a des mots affreux. La professeure...
tout ce qui se termine par re, c'est pas terrible.
C'est pas beau, alors. Donc, et puis là, c'était tellement systématique que c'est un petit peu grotesque. Enfin, hein. Alors, ce que recommande aussi formellement l'Académie française, c'est que lorsqu'on dit Madame le ministre, on peut dire Madame la ministre. Madame le ministre faisant allusion à la fonction ministérielle. Mais on dit que par courtoisie, l'Académie comprend que l'on puisse, face à une femme ministre, dire « Madame la ministre ». Et ça n'est pas laid. Par contre, dire « Madame la préfète », comme je l'ai entendu dire dans certaines manifestations publiques, que je me suis permis de corriger immédiatement en disant « Madame le préfet », c'est très laid. Et en plus, « Madame la préfète », c'est la femme du préfet. Comme « Madame l'ambassadrice », c'est la femme de l'ambassadeur.
Oui, là, au-delà de l'élégance, on retombe sur la nécessité d'exactitude et de précision.
Exactement, parce que finalement, ce sont des contresens.
Et puis, il y a aussi ce que les tenants de cette féminisation en outrance semblent oublier, c'est qu'il y a un caractère universel du masculin. Et qu'il me semble beaucoup plus glorieux pour Marguerite Yourcenar, ce que je pense tout à fait, de dire que Marguerite Yourcenar est un des plus grands écrivains du XXe siècle, plutôt que de dire qu'elle est une des plus grandes écrivaines du XXe siècle, qui la réduirait à simplement la portion des écrivains femmes. Oui. Voilà, et je trouve que c'est tout de même dommage d'oublier ce caractère universel du masculin. Alors peut-être qu'il faudrait expliquer aussi... qu'il ne faut pas confondre le genre grammatical et le genre des personnes, ce qui sont deux choses tout à fait différentes. On sait qu'il y a un arbitraire du genre pour les noms, donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas à voir avec le sexe des personnes.
Bien entendu. Pour poursuivre dans cette veine, lorsque vous scrutez ces inflexions de la langue, ces mots nouveaux qui arrivent, ces usages nouveaux, non pas ceux qui sont imposés par décret, mais ceux qui naissent spontanément dans la population, qui s'emparent de sa langue et la fait vivre. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion d'apercevoir des changements de sensibilité, des inflexions de vision du monde ?
Sûrement. Sûrement. Alors, il y a deux obstacles. Ça, c'est d'être trop projeté dans l'avenir et d'exploiter tout ce qui naît et en faire déjà des choses acquises, ou alors de s'accrocher au passé et de refuser l'introduction justement de sens nouveaux dans le langage. Ce que je crois qui reste tout de même extrêmement important, c'est qu'un mot nouveau doit avoir une définition extrêmement précise. Et dès l'instant où il est flou, à ce moment-là, est-il parfaitement justifié ? Faut-il attendre qu'il se justifie ? Mais je crois que c'est une réflexion qui nous appartient, absolument, à chaque fois.
Tout à fait, oui.
Si on devait dresser une... Bon, vous avez dit que vous n'aimez pas le terme de défendre la langue française, mais toutefois, il y a des périls. Le goût des anglicismes, pour telle ou telle raison, le snobisme peut-être, la puissance de l'industrie du divertissement anglo-saxonne peut-être également.
Oui.
Est-ce qu'il y a une typologie des menaces ?
Quand on voit la propagande de la mairie de Paris pour les Jeux Olympiques, on peut s'en inquiéter. Hein ? Patrick peut en parler, on a fait... Là, j'ai là, ici...
Oui, mais parlons-en.
Oui, bon, c'est tout de même vraiment scandaleux qu'une promotion des Jeux Olympiques, le centenaire des Jeux Olympiques créé par Jean Coubertin, qui avait mis la langue française comme première, la langue anglaise seconde, que la publicité que la mairie de Paris adopte, c'est une publicité en anglais et qui, en plus... est une ridicule publicité puisqu'elle concernait des petits gâteaux ou des pizzas à découper. Et tout ça sous prétexte que ça pourrait susciter des apports d'argent. Alors, l'olympisme, c'était au contraire le sport, en dehors de toute possibilité d'y trouver une rémunération. Et là, alors, on est passé de l'olympisme à une marchandisation de quelque chose qui était noble. Et en plus, on adopte un slogan qui est absolument, qui est non seulement d'une vulgarité extrême, d'un emploi passé péjoratif, et en plus en anglais. On rêve, non ? On rêve.
Patrick Vanier.
Oui, non, je suis d'accord avec ce que dit le professeur Pouliquen, c'est-à-dire que c'est quand même dommage que l'on veuille promouvoir la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, c'est tout à fait respectable. Ce qui me semble un petit peu étonnant, c'est le décalage qu'il y a entre le fait de souhaiter une adhésion populaire très forte, donc l'adhésion populaire des Français, et le fait de ne pas leur parler dans leur langue. Il me semble qu'il y a quand même une forme de contradiction entre les termes qui est à tout le moins étonnante, voire scandaleuse. Et puis, il y a une forme de vernis de modernité à employer ces termes anglais qui me semblent tout à fait étonnantes. Si on souhaite partager quelque chose, à ce moment-là, enfin, il me semble qu'il est nettement préférable de partager aussi notre langue. Voilà, notre langue, elle est belle. Il me semble pas que les visiteurs qui viennent en France souhaitent entendre parler anglais. Enfin, si c'était ça leur but, il y a beaucoup d'autres destinations dans lesquelles ils seraient beaucoup, leurs attentes seraient comblées. Voilà, je pense que quand les gens viennent en France, ils viennent aussi pour entendre parler français.
Bien sûr.
Exactement, monsieur. Je pense même qu'en termes de communication, c'est une erreur dramatique, car j'en parlais récemment avec un ami qui travaille dans une grande entreprise française, qui se bat sur des marchés internationaux, qui n'a pas à recevoir de leçons sur la mondialisation. Et il me disait, on a longtemps cru que pour exister dans la mondialisation, ce qu'il fallait faire, c'était rentrer dans une zone, oublier ses racines, son identité et autres. En réalité, c'est l'inverse. Quand on se bat sur un marché international et qu'on est une entreprise française, il faut mettre en avant clairement que l'on est français, que c'est différenciant, n'existera dans ce grand chaudron de la mondialisation que les gens qui restent attachés à ce qu'ils sont. Ouais. Tous les autres seront balayés et dissous. Donc pour remporter la candidature de Paris, il vaut mieux mettre en avant Paris, capitale française, et toutes les images positives qui peuvent s'y attacher plutôt que de laisser entendre que Toronto ou Paris, ce serait la même chose.
Voilà, je pense que c'est pas une bonne idée d'adapter la langue de son principal concurrent.
Que Paris, dit-on, devienne une ville monde. Non, mais ça veut dire quoi?
Mais qu'elles sont interconnectées, fort bien. Mais justement, quand on s'interconnecte avec d'autres, il faut continuer à savoir ce que l'on a.
Exactement. Alors, ça veut dire qu'on dissout Paris dans l'uniformité de toutes les capitales, alors que Paris est quand même Paris, quoi.
Et puis, par ailleurs, dans ce monde, il y a beaucoup de francophones. Que vont-ils penser?
Oui, exactement. Et les francophones, vous savez, j'ai eu le privilège de représenter la francophonie, enfin, l'Assemblée nationale au cours de la dernière exposition internationale de Shanghai, où là, j'ai eu tout de même pendant 3 jours à côtoyer tous les représentants de la francophonie du monde, avec beaucoup d'Africains, bien sûr, et nos confrères canadiens, belges, suisses. Nous étions d'ailleurs d'Europe très minoritaire, une population parlant un français qui était absolument formidable. Hein. Or, eux défendent la langue d'une façon très simple, en la parlant merveilleusement, c'est-à-dire en supprimant cette nuisance que nous avons dans notre pratique interne de la langue, enfin, française de la langue, à tout propos, incorrect, grammaticalement et même phonétiquement. On sait déjà qu'en Afrique se siège un énorme développement potentiel de la langue française, que je les ai trouvés, moi, particulièrement attachés parce que, au travers de la langue française, c'est l'administration, c'est les règles que nous avons laissées là-bas au cours de cette colonisation, que l'on critique si vertement, mais qui avait quand même quelques petits avantages, dont ceci, dont les Africains bénéficient. Et c'est là un potentiel de culture de la langue française qui n'est pas négligeable. Donc la langue française n'est pas perdue. La langue française est mal parlée en France, mais elle est bien parlée ailleurs.
Et comme on l'a dit, les Français y restent attachés, car elle est peut-être mal parlée dans les médias et autres, comme nous le disions, cela suscite des réactions outrées.
Mal parlée par ceux qui peuvent parler. Voilà, mais par ceux qui écoutent, elle est en général bien parlée, puisqu'on voit le succès qu'on... lorsqu'on a parlé de la réforme de l'orthographe, vous avez vu le tollé général de la France, qui sont, je crois, nos aimables correspondants sur la toile et nos lecteurs de dire ne pas dire.
Voilà, entre autres.
La langue reste donc une passion française.
Absolument.
Tout à fait une passion française.
Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait à peu près le tour de la question. Nous avons dressé le périmètre, mais le trésor se trouve à l'intérieur du périmètre. Et c'est cette langue qu'il faut non seulement défendre, mais pratiquer, avec laquelle il faut s'amuser.
Bien sûr.
Et à cette effet, j'invite nos auditeurs à ne pas en rester à nos propos et à la passion que nous avons pu montrer à tel ou tel instant de cette émission, mais à se délecter des 3 volumes de Dire, ne pas dire, du bon usage de la langue française, publié donc par l'Académie française selon le travail titanesque que nous avons décrit au cours de cette émission. Ces volumes peuvent être trouvés auprès de l'éditeur Philippe Ray. Donc s'ils ne sont pas disponibles dans vos librairies, précisez bien, je souhaiterais acheter Dire, ne pas dire, du bon usage de la langue française. Il y a déjà 3 volumes parus et c'est donc chez Philippe Ray, éditeur. Messieurs, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Thank you.